Chapitre de l'histoire tchèque. David, allons.
Il y a une semaine, cela faisait 50 ans que l'écrivain et musicien Boris Vian nous quittait. Pas de lien a priori entre Boris Vian et Prague, si ce n'est qu'il aurait sûrement apprécié les clubs de jazz. Mais nous saisissons ici l'occasion d'évoquer les rapports complexes qui ont existé entre la bohème et des personnalités aussi singulières que Vian, à savoir André Breton et Albert Camus. Les relations entre surréalistes tchèques et français condensent les quelques ambiguïtés qui ont pu exister entre les écrivains des deux pays durant le XXe siècle. Côté tchèque, citons le théoricien de l'art Karel Tiger, les peintres Jindřich Štyrský et Maria Čermínová, plus connus sous le nom de Toyen, tous fondateurs du mouvement d'avant-garde d'Eliézil dans les années 1920. Tous ces artistes connaissaient bien Paris pour y avoir effectué des voyages fréquents et par conséquent le mouvement surréaliste.
Le surréalisme, c'est par définition l'automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée.
André Breton, que l'on vient d'entendre, véritable père du surréalisme, n'a pas fait tout de suite des émules auprès des artistes tchèques. Les membres du Deviezil en particulier restent longtemps critiques, et pour tout dire hermétiques, à son égard. Ils condamnent la forme narrative des peintures, qui leur paraît dépassée par rapport au cubisme. Le poète Vítězslav Nezval juge la démarche surréaliste vaine, sinon futile, et il ne ressent aucune affinité pour l'écriture automatique. Pourtant, la situation va rapidement évoluer. À partir de 1933, Nezval se rapproche d'André Breton, et bien vite, Karel Tiger et Jindřich Štyrský prennent la direction du groupe surréaliste tchèque. En mars 1935, André Breton se rend à Prague, où il prononce un discours à l'association des peintres et plasticiens Manès, devant près de 800 personnes. Il y rend un hommage à Prague, en parlant de la ville magique de la vieille Europe. Dans la bouche de Breton, le mot « magique » a sans doute un sens noble, magie des mythes mexicains, magie de l'art. Pourtant, elle réactive, ou active avant la lettre, cette image de carte postale qui colle tant à la capitale tchèque. Car du mystique et du mystérieux à la fin du XIXe siècle, au magique du tourisme de masse, le pas a été franchi dès la période communiste. Peter Demetz, émigré depuis 1948 aux États-Unis où il enseignait la littérature allemande à l'université de Yale, évoquait les lendemains désenchantés du printemps de Prague en ces termes, nous le citons. La nostalgie d'une Prague magique sert maintenant de camouflage à un anticapitalisme romantique. Mais elle est devenue en même temps une marchandise dont on fait commerce pour les touristes. En fait, pour certains historiens, la phrase d'André Breton pourrait être à prendre au second degré. Ne doit-on pas comprendre en effet que Prague, capitale magique de la vieille Europe, a désormais un rôle secondaire par rapport à Paris, ville surréaliste de la nouvelle Europe.
Poslal jsem právě panu předsedovi vlády dopis, jim se vzdávám svého prezidentského úřadu. A obracím se na vás, abych se s vámi jako prezident rozloučil, abych se rozloučil se svými politickými spolupracovníky.
Automne 1938, Beneš prend acte avec résignation de la conférence de Munich. La menace nazie se rapproche et le parti communiste en Tchécoslovaquie est en effervescence. Vítězslav Nezval, qui est membre du parti, doit sur sa pression dissoudre le mouvement surréaliste tchèque. André Breton, qui avait rompu avec le parti 3 ans auparavant, tente, en vain, de l'en dissuader. Quittons maintenant André Breton pour aborder le cas bien spécifique d'Albert Camus. Pour le père de l'absurde, ce n'est plus l'ambiguïté, mais une absolue étrangeté qui caractérise ses liens avec la bohème. Tiré d'un fait divers, sa pièce, Le Malentendu, est représentée au Théâtre des Mathurins le 24 juin 1944. Camus pensait à l'origine au titre de Budějovice, car l'action se situe dans le sud de la Bohème. L'histoire, un jeune homme, Jan, est assassiné par sa mère et sa sœur, qu'il venait retrouver 20 ans après avoir quitté son village natal et fait fortune. Tenant une auberge, elles avaient l'habitude d'assassiner et de voler les riches touristes qui faisaient étape chez elles. Yann, qui voulait leur faire une surprise, avait caché son identité le premier soir, ce qui lui sera fatal. La pièce se termine par le suicide de la mère et de la sœur. Ce n'est pas un hasard si Albert Camus a choisi la Bohème pour cadre d'une histoire qu'il qualifiait lui-même de particulièrement sombre. L'écrivain effectue un voyage à Prague au cours de l'été 1936. Il traverse alors une crise personnelle et la Bohème agira sur lui comme un véritable révélateur. Il relate son séjour dans l'envers et l'endroit. C'est lors d'une nuit à l'hôtel qu'il ressent une tristesse étouffante, qu'il découvre aussi le sentiment profond de l'exil et la nausée de l'existence. Ce thème préfigure celui de l'absurde, et on le retrouvera désormais dans ses œuvres majeures. D'une certaine façon, son séjour à Prague, empreint de malaise, aura été fécond, si ce n'est catalyseur, de l'absurde camusien. Enfin, si les rapports entre écrivains français et terre tchèque ont pu être complexes, ce fut le cas dans les deux sens. On sait l'influence qu'eut Jean-Paul Sartre sur les intellectuels tchécoslovaques durant les années 50, Antonin Lim l'a évoqué dans ses entretiens. Mais l'aura de Sartre n'aura pas été à toute épreuve, et elle aura aussi donné lieu à quelques critiques salutaires.
Il était philosophe, être philosophe ça veut dire aimer la vérité, mais parfois il l'a démenti. C'était au moment des procès de Prague, c'était au moment de son retour de l'Union soviétique en 54, quand il a écrit plusieurs textes sur la belle vie menée par les citoyens soviétiques, et il n'a même pas mentionné les camps de concentration.
C'était le poète et traducteur Yann Vladislav qui nous quittait en mars dernier. Thank you.